franceinter.fr.
Et un petit cours de fitness, Axel, aujourd'hui, à la une de la science.
Allez, c'est parti.
Allez, on y va. On commence par l'échauffement. Allez, on court sur place. Courage.
Voilà, donc c'est vraiment parti là maintenant.
Alors Mathieu, vous avez certainement, et vous l'avez dit, reconnu Gym Tonic, Véronique et Davina. Et je suis sûr aussi que vous vous demandez comment garder des muscles bien fermes en vieillissant.
Ah oui, moi par exemple.
Non, en réalité je pensais surtout aux plus de 65 ans qui nous écoutent, puisque la fonte musculaire est aujourd'hui un des premiers facteurs de la perte d'autonomie des seniors. Alors bien sûr, faire du sport, c'est la bonne solution, mais il existe peut-être une hormone, la apelline, qui peut vous aider. Et c'est une découverte faite par des chercheurs toulousains aujourd'hui. Et on accueille Cédric Drey à Toulouse pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Axel.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier et au Génopôle. Vous êtes en duplex avec les locaux de France Bleu et vous publiez dans Nature Medicine ses travaux sur la perte musculaire liée à l'âge, qu'on appelle aussi la sarcopénie. Alors quels sont ces mécanismes et pourquoi nos muscles fondent quand on vieillit ?
Alors oui, effectivement, nous avons publié cet article dans Nature Médecine récemment, au mois d'août. La perte musculaire, elle a un autre nom, elle s'appelle la sarcopénie. À partir d'un certain âge, en fait, on se rend compte que on perd 1% de masse musculaire par an. Et finalement, au bout d'un moment, cette perte de masse musculaire, elle va entraîner un phénomène de dépendance. Alors les mécanismes sous-jacents, on les connaissait avant l'étude. On sait très bien que le manque finalement de protéogénèse, donc de synthèse de protéines dans le muscle, va participer à diminuer cette masse musculaire. On sait également que l'innervation ou l'angiogénèse, donc le mécanisme d'irrigation du muscle, est impliqué. Et puis, ce qui nous intéressait à nous, c'est on sait aussi que le métabolisme, donc l'apport énergétique de la cellule musculaire, est altéré au cours du vieillissement. Et donc l'histoire est partie finalement de cette constatation comme quoi le muscle du patient âgé ou de la personne âgée avait beaucoup plus de mal à gérer son potentiel énergétique comparativement à une personne beaucoup plus jeune.
Et cette perte musculaire, donc Cédric Drey, elle commence quand vraiment? Oui. À quel âge à peu près?
Alors cette perte musculaire finalement, elle est quand elle est dans un vieillissement, on va dire normal, elle commence déjà très tôt, puisqu'à partir de 30 ans, on perd 1% de masse musculaire.
Même Axel, alors vous voyez, il sautait de moi tout à l'heure.
C'est ça. Alors on ne parle pas bien sûr des sportifs ou des sportifs de haut niveau qui eux s'entretiennent et ont une masse musculaire quand même encore assez élevée, même après un certain âge. Là, on parle, on va dire, de la population générale. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que au-delà de la perte musculaire qu'on va appelé normal au cours du vieillissement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la perte dramatique suite à un alitement, suite finalement à une incapacité qui va faire que la personne ne va plus bouger, va perdre excessivement de masse musculaire en peu de temps et aura beaucoup de difficultés passé un certain âge à en récupérer.
Alors, ce que vous venez de découvrir, c'est aussi et surtout l'importance d'une hormone en particulier qui s'appelle l'apelline. Comment est-ce que vous avez travaillé? Je crois que vous avez regardé chez les souris, hein.
C'est ça. Dans un premier temps, on a pu s'apercevoir en fait que cette petite molécule, alors c'est une petite protéine qui s'appelle l'apelline, eh bien en fait, elle était produite dans le muscle de souris lorsque l'on faisait contracter ce muscle. On a vu ça chez l'animal, on a vu ça même dans des boîtes de culture in vitro. On arrive à faire contracter les cellules et on a vu en fait que les cellules musculaires produisaient cette apelline. Et en réponse, en fait, cette apelline, quand elle est produite aux alentours du muscle, elle se fixe sur la cellule musculaire. Et elle lui permet en fait d'améliorer ses fonctions métaboliques, donc son apport énergétique, etc. Et donc c'est à partir de cette constatation-là qu'on a pensé à un potentiel traitement thérapeutique donc pour le vieillissement.
On est sûr que l'apelline existe aussi dans les muscles humains?
Alors on est sûr qu'elle existe dans les muscles humains, ça a été démontré, c'est pas notre étude, mais ça a été démontré il y a quelques années. Et on est sûr également qu'elle est produite à l'exercice, au cours d'un exercice humain. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte dans une population en fait âgée, il y a eu deux cohortes, une en France et une aux États-Unis, en Floride, bien que cette production d'apelline avait l'air d'être corrélée aux capacités musculaires. C'est-à-dire que quand je fais un exercice physique, finalement, si je produis de l'apelline, ça voudra dire que derrière j'aurai un bénéfice en termes de masse musculaire et de force musculaire. Si mon muscle est moins capable ou plus capable d'en produire, j'aurai beaucoup plus de difficultés à faire du muscle et donc à finalement avoir un gain vis-à-vis de cet exercice physique.
Alors maintenant que vous comprenez mieux un peu le rôle de cette hormone, quelles sont les pistes envisagées? C'est prescrire de l'apelline aux personnes âgées qui souhaitent reprendre un peu le sport?
Alors, effectivement, la collaboration que l'on a ici à Toulouse avec la Gérontopole, qui est gérée par le professeur Velas, nous conduit aujourd'hui à penser qu'on pourrait utiliser l'apelline comme un traitement thérapeutique uniquement, encore une fois, vis-à-vis de personnes qui n'en produisent pas. Donc pour ça, on pourra proposer, en tout cas dans le futur, je l'espère, Des tests cliniques où on fait juste un exercice de marche, pas besoin de faire un exercice trop intense. On prélève le sang avant, après, on regarde la capacité que l'on a à produire cette apeline. Si on n'en a pas de capacité ou des capacités trop faibles, on peut proposer une thérapeutique. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'est peut-être d'essayer de mieux comprendre par quel mécanisme l'apeline est produite par le muscle. Et est-ce qu'on peut finalement favoriser cette production par un apport nutritionnel? Je pense par exemple à des oméga-3 ou des choses comme ça, dont on sait qu'il serait bon finalement pour la production musculaire d'apeline.
Est-ce que si on donne de l'apeline à des cellules ou à des patients, on augmente également la propre production, vu que vous avez dit que le muscle en produisait naturellement?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pu voir aussi, nous, dans notre étude. C'est que c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que si, finalement, on réamorce le cycle, eh bien, ce cycle-là s'auto-entretient par la suite. C'est-à-dire, quand on a traité nos souris, finalement, au départ, elles n'avaient pas beaucoup d'apeline. Et on s'est rendu compte, au bout d'un mois de traitement, que ces animaux-là, donc bien cagés, eh bien, présentaient une production quasi normale d'apeline par le muscle. Donc, on a l'impression qu'il faut réamorcer la pompe pour pouvoir ensuite avoir un réel bénéfice de ce traitement.
En gros, il ne faut jamais arrêter de faire du sport.
Alors après, bien sûr, la recommandation derrière, effectivement, c'est, vous l'avez bien compris, si je fais du sport tout au long de ma vie, ou en tout cas un exercice modéré, je parviens à conserver mon stock d'apeline dans le muscle, donc j'en produis toujours, et effectivement, derrière, je peux espérer vivre le plus longtemps possible en bonne santé, puisque notre objectif, c'est ça, de faire vivre les gens le plus longtemps possible, mais en bonne santé.
Voilà, la perte musculaire, la souplesse de la peau, Nicolas Dupin, on pourrait presque faire un parallèle aussi. Hein.
Tout à fait. C'est aussi une condition très importante. La peau recouvre les muscles et la souplesse de la peau, effectivement, il faut savoir qu'à partir de 25 ans, on perd 1% de notre collagène.
C'est
donc ça va aussi relativement vite. Mais je suis très intéressé par ce que vous venez de découvrir, nos collègues, parce que je voudrais savoir si effectivement les essais d'injection d'apeline peut-être pourraient être associés au traitement du cancer, parce qu'on sait que la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire au cours du cancer, est un facteur de mauvais pronostic. Donc je ne sais pas s'ils ont des données.
Cédric Dress, est-ce que vous avez des infos là-dessus?
Alors c'est rigolo que l'on en parle, oui, effectivement.
Ah, c'est parce très rigolo, oui.
Non, mais je veux dire par là qu'en fait, on a déjà une partie de la réponse à la question, puisqu'on a été contacté pendant l'étude, on a été contacté par une équipe italienne qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait. Et cette équipe italienne, en fait, m'a dit, voilà, on est en présence de femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Et ces femmes, donc, qui présentent ce qu'on appelle une cachexie, donc une perte de la masse musculaire, qui n'est pas associée au vieillissement cette fois-ci. Eh bien, en fait, dans les biopsies des muscles de ces dames, on avait une diminution dramatique de l'apeline. Et donc, on essaye de comprendre aujourd'hui si l'apeline ne pourrait pas, là aussi, pareil, peut-être pas réverser, mais en tout cas diminuer la perte que l'on a de muscles associés à des chimiothérapeutiques ou au cancer lui-même.
Eh bien, bravo pour vos recherches, donc des pistes. Merci. Très intéressantes, Cédric Dray, avec cette publication parue dans la revue Nature Medicine. Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de France Bleu à Toulouse pour ce duplex, et puis Axel, on se retrouve demain.
Allez, toutou youtou.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un nouveau type de cellules nerveuses découvertes dans le cerveau humain. Des chercheurs de Washington pensent avoir mis la main sur de nouveaux neurones qu'ils ont surnommés neurones églantiers en raison de la forme de leurs ramifications. Ces neurones étaient parfaitement inconnus chez l'animal, bien qu'ils fassent partie des neurones inhibiteurs qui ralentissent l'activité des autres neurones autour d'eux. Les chercheurs ne savent pas précisément quel est leur rôle dans le cerveau. Les traces de marijuana dans le lait maternel persistent jusqu'à 6 jours après consommation, bien que la plupart des organisations de santé déconseillent vivement de consommer du cannabis, même médical, pendant la grossesse ou l'allaitement. Il s'agit d'une des premières études sérieuses sur le sujet. Le THC, la substance psychoactive, a été tracé chez 50 femmes plus ou moins consommatrices et retrouvé dans le lait de 63% des femmes consommatrices jusqu'à 6 jours après la prise. L'étude ne précise pas pour autant les effets sur le nourrisson, qui sont donc pour l'instant mal connus. Et puis pour terminer, un caca royal et une drôle de pratique observée chez les rats taupes nus, ces rongeurs champions de longévité et vivant sous terre, qui sont décidément uniques. Ils vivent en colonies très organisées autour de leur reine, et des chercheurs viennent de comprendre pourquoi les nourrices qui s'occupent des petits avaient pour habitude de manger les défections de leur reine. Et bien, c'est tout simplement parce que les hormones maternelles que ces crottes contiennent les préparent à prendre elles-mêmes soin des tout petits.